10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Moi, je dois dire que quand Maître Serran et l'imam Abdelali Mamoun sont ensemble, ça me fait un peu peur, je dois dire, quand même.
Oh,
okay. Ah, voilà, j'ai peur.
Pourquoi,
ouais.
Philippe?
Ouais, parce que les deux, ça va pas.
Ça va très bien, au contraire. Non, on concilie la loi.
Et la foi. Non, pas du tout, là.
C'est la loi et la foi qui se consolident et qui cohabitent. Tout en bon terme. C'est très important. Salam alaykoum d'abord, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bien sûr à toi Philippe, à bien sûr notre ami Fodail à la réalisation, à toute l'équipe de Beurre FM et bien sûr à toutes nos auditrices et auditeurs fidèles à notre émission L'Islam au présent afin de vivre Inch'Allah ce qui, bien effectivement, va concilier la loi et la foi. Dans leur quotidien, Inch'Allah. La citoyenneté et la spiritualité, c'est important.
Est-ce que vous avez vu nos nouveaux studios, Imam Abdelali?
Il est magnifique. Oui, je vois qu'il y a encore des travaux, c'est pas fini.
Non. Ça, alors, les travaux, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais vraiment quand ça finit.
Voilà,
hein.
C'est ça.
À Beurre FM, j'ai vu compris. Des travaux qui ont duré 10 ans. Hein. Mais là-bas, de l'autre côté, on a beaucoup avancé quand même.
Eh ben, c'est formidable.
T'as vu, Fodil a une nouvelle tour de contrôle, voilà, avec des machines ultra modernes.
Ouais, bravo. Excellent. En tout cas, comme on dit, hana mangolo mabrouk et hani Allah.
C'est pour ça qu'on ne vous a pas entendu la semaine dernière, parce que la semaine dernière, nous étions en travaux et on n'avait pas arrivé.
Bah, apparemment, si, puisqu'il y a quand même une rediffusion.
La semaine dernière, on n'a pas réussi à faire redémarrer les studios la semaine dernière.
D'accord.
On était un peu.
Tant pis alors.
On était dans la chaleur la semaine dernière, Imam. Donc, c'est le plaisir de vous retrouver.
C'est toujours chaud quand même.
Oui. Faites la météo aussi.
Bah écoute, je crois aujourd'hui, on est au loin autour de 30 degrés, je crois.
D'accord.
On n'est pas loin.
D'accord, et demain?
Je sais plus, mais demain je m'en fous. La rigueur, dimanche, c'est dur du Seigneur, comment dire.
Bon.
Tous les jours du Seigneur, mais bon, dimanche aussi.
J'ai des projets pour vous. On va parler de cette saison qui va démarrer, c'est la saison de Dhul Hijjah. Dhul Hijjah, c'est le dernier mois du calendrier de l'année musulmane, hein, Imam Abdelali.
Du calendrier lunaire, de calendrier égyrien, comme on dit, qui débute ce dimanche soir.
Voilà.
Et donc lundi sera le premier jour du mois de Dhul Hijjah, Inch'Allah, qui donc confirme que l'Eid aura bien lieu le jeudi 28.
28 ou 29?
Non, c'est pas le 29, c'est le 28. Le 28, Philippe. Voilà.
Mais c'est jeudi, on est d'accord.
C'est le jeudi. Attends, je vais vérifier quand même. Est-ce que le jour de la semaine, ça correspond à quoi avec le 28? En tout cas, c'est le 28, Philippe.
Donc j'avais raison. Je vois jeudi 29.
Alors attends. Non, c'est donc mercredi.
L'Aïd, c'est le 28.
Mercredi 28, Philippe. L'Aïd, c'est le mercredi 28. Arafat. C'est le mardi 27. D'accord.
9e jour du mois.
Le 9e jour, qui est le jour de Arafat, donc qui est fortement recommandé de jeûner, de profiter surtout de sa grandeur, de sa valeur, de ses mérites, de ses avantages, de ses privilèges. Donc casse justement ce jour qui est le jour le plus noble de toute l'année, je le répète, le plus apprécié de Dieu, le plus aimé de Dieu, le jour où même Dieu, c'est la seule fois dans l'année où il descend pas la nuit, puisque en principe dans le hadith, dans la sunna du prophète, il nous est rapporté que Dieu descend dans le ciel du bas monde la nuit, le dernier tiers de la nuit, afin d'interpeller ses serviteurs et leur demander qui parmi vous veut me demander que je lui pardonne, qui parmi vous veut que je lui accorde les biens de ce bas monde, qui veut etc., et qui veut me demander quoi que ce soit, je lui exaucerai ses prières. Ça, c'est le dernier tiers de la nuit où Dieu descend dans le ciel de ce bas monde tous les jours de l'année, sauf ce jour. Il descend le jour, il descend la journée, en plein jour, du matin au soir, le jour de Arafat, Dieu descend dans le ciel de ce bas monde. Alors, bien entendu, il se manifeste d'abord, en particulier pour ceux qu'il a choisis, sélectionnés pour accomplir le grand pèlerinage à la Mecque, ceux qui sont ce jour-là à Arafat, le jour de Arafat, sur le mont Arafat, pour s'adresser à ses anges. Et il dit que me veulent ces gens-là, que me veulent ces serviteurs, que me veulent ces créatures. Ils viennent en poussiérés, avec des tignasses. Ils sont tous comme des voyageurs complètement fatigués, etc. Que me veulent-ils? Pourquoi sont-ils venus d'aussi loin, de toutes les contrées du monde, pour se réunir ici sur cette plaine la plaine de Arafat. Pourquoi sont-ils tous là? Et là, les anges diront, Ya Rabbi, tu sais mieux que nous. Ils sont devenus demander ta miséricorde et ton pardon. Et donc là, Allah Azza wa Jal prend à témoin les anges et leur dit, Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Soyez témoins, ô mes anges, que je leur ai tous pardonné leur faute.
Alors là, c'est comme le début du mois de Ramadan. Est-ce qu'il y a un communiqué pour annoncer officiellement le début de mois de Dhul Hijja?
Oui, il y en a eu plein. Il y a eu celui qu'on appelle le Conseil théologique et astronomique des musulmans de France qui a annoncé effectivement que l'Aïd aura lieu le 28, donc le mercredi 28 et non pas le jeudi 29. Attention Philippe, l'Aïd c'est le 28, la veille, Yom Arafa c'est le 27. En tout cas à la Mecque, et puis en même temps je vais te dire honnêtement, il y a toujours cette nuit du doute qui est demain soir. Demain soir c'est la nuit du doute. Donc demain soir, on va savoir si lundi, c'est le premier jour de l'Hijja ou pas. Mais c'est très probable que ça soit le lundi, qui soit le premier jour de l'Hijja. Et donc, si on compte lundi 1er, mardi 2, allez, on continue, mercredi 3, on continue, hein, jeudi 4, vendredi 5, samedi 6, dimanche 7, lundi 8,
mardi 9,
et donc mercredi, c'est bien le 10. Mercredi 10, qui est le jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd et le mardi 9 sera le jour de Arafat, le 9. Dhul Hijja, on parle du calendrier égyrien. Voilà. Donc on est bien d'accord que si lundi c'est bien le premier jour du mois de Dhul Hijja, et ça sera confirmé à 100% demain, lors de la nuit du doute qui va débuter le mois du calendrier lunaire de Dhul Hijja, eh bien il sera confirmé que lundi est bien le premier jour de Dhul Hijja et que mercredi de la semaine d'après, eh bien, sera le jour de l'Aïd. Donc voilà, c'est très important de mettre les choses dans l'ordre. Et c'est très important tout ça, Philippe, parce que cette religion qui est l'islam, avec tous ses rites, a des visées, a des finalités, a des causalités. Pourquoi Dieu nous a légiféré tout ça, alors que tout ça, finalement, qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Puisque Dieu le Tout-Puissant, l'Omnipotent, n'a nullement besoin de toutes ces règles, de toute cette organisation chronologique, etc., qui est structurée, tout ça. Pourquoi Dieu nous impose-t-il tout ça? Bien entendu, il y a la vision spirituelle, il y a la vision rituelle au niveau de la foi, il y a aussi le côté émotionnel qui est très fort, qui est une adoration du cœur, par l'exaltation, la glorification des rites de Dieu. Certes, bien entendu, celui qui glorifie, qui exalte les adorations de Dieu, les rites de Dieu, cela fait partie de la piété des cœurs. Donc le croyant, en mettant en valeur, en mettant en exaltant ces rites-là, eh bien lui reçoit de Dieu, bien entendu, l'augmentation, la quantification de la récompense qu'il va recevoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, Dieu lui accordera ses provisions en piété. Dans son cœur, taqwa al-qulub, la piété dans le cœur, hein, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset de la sourate Le Pèlerinage, puisque c'est dans ce verset là que justement Dieu évoque, verset 38, autour de ce verset 38 vous allez, ou 37, vous allez découvrir tous des versets qui parlent de l'importance de réaliser le nusuk, qui est le fameux, la pratique du sacrifice, qui est la commémoration du sacrifice d'Abraham, alayhi salam, que la paix soit sur lui, qui avait répondu et s'était soumis à la volonté de Dieu. Donc il est le premier soumis par excellence, celui qui, malgré que cela le contraignait énormément de devoir se séparer de son seul fils unique qu'il a mis si longtemps à concevoir, eh bien Dieu a bien montré à Dieu, il a véritablement démontré à son créateur qu'il était vraiment soumis et prêt à lui obéir. Donc il a été jusque sur l'autel, mettre son fils, il a voulu l'égorger, et Dieu, dans sa grande miséricorde, a remplacé son fils Ismaïl par un bélier venu du paradis, venu du ciel, comme le dit le Coran, « wa fadaynahu bi dhibhin azim ». Donc les croyants sont dans cette démarche dans laquelle ils commémorent, revivifient ce moment intense où Ibrahim alayhi salam a été éprouvé dans sa propre chair, dans son enfant, et que finalement il a réussi le test, il a réussi l'examen, et a réussi à démontrer à son créateur, qu'il était véritablement un soumis et le premier soumis, puisque dans le Coran il est dit Huwa sammakumul muslimin, c'est lui Ibrahim qui vous a nommé et dénommé musulman. Et je voudrais ouvrir une parenthèse par rapport à cette expression et interpeller tous mes co-religionnaires de ne pas vous laisser embobiner par des gens qui vont vous dire c'est notre courant, c'est notre tendance, c'est notre parti, c'est notre idéologie qui est la vraie. Je dis, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle l'islam ? Non, elle s'appelle salafisme, elle s'appelle soufisme, elle s'appelle tijanisme, elle s'appelle malikisme, elle s'appelle je ne sais quoi. Eh bien, sachez que tous ces vocabulaires, toutes ces terminologies sont une pure innovation que le prophète n'approuvera jamais. Il a même considéré le Coran que c'était une forme de polythéisme. Dieu dans le Coran, il dit, dans la sourate les Romains, « Wa anibu ila rabbikum wa aslibu lah wa aqimu salah » Ne faites pas partie des idolâtres, il dira. Alladhina farraqu dinahum, ceux qui ont divisé et partagé leur religion, ceux qui ont découpé et morcelé leur religion. Farraqu dinahum wa kanu shi'an, ils se retrouvaient en différents clans. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, chaque parti dira c'est nous, on est les vrais, c'est nous les meilleurs, c'est nous ceux qui sommes dans la vérité absolue, c'est notre maître, je sais pas qui, notre gourou un tel. Non, on doit avoir seul maître, seul référent, Sayyidina Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle pour adorer un seul et même Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela dans l'unité, car on ne peut réaliser l'unicité de Dieu si on ne réalise pas avec l'unité des croyants. Et c'est même le sens de ce pourquoi Allah azza wa jalla nous dit de l'adorer à un moment choisi, de manière chronologique, de manière ordonnée, de manière structurée, où on va par exemple faire la zakat al-fitr avant la prière de l'Eid al-fitr, on va égorger le mouton après la prière de l'Eid al-adha. Donc tout cet ordre chronologique, quand on va à la Mecque, pareil, on va d'abord à Arafat, ensuite on va se couper les cheveux, ensuite on va jeter les jamarat, ensuite on va se couper les cheveux. On va respecter tout cela pour nous apprendre dans notre quotidien et éduquer notre personne, notre identité, notre personnalité à avoir cet esprit organisé, structuré dans notre vie. Parce que par ce respect de ces règles-là, de cette organisation, nous pouvons, grâce à cela, eh bien, l'utiliser comme moyen pour le répandre dans le reste de nos activités quotidiennes et qui, grâce à cela, va structurer et organiser la société et donc établir, véritablement organiser l'ordre établi. Un ordre établi dans nous-mêmes est nécessaire à la mise en place d'un ordre établi dans la société. On ne peut pas prétendre à dire, voilà, on veut un ordre établi dans la société, on veut le nizam, on veut la paix sociale, on veut une société structurée, alors que moi-même, je ne le suis pas au fond de moi-même. Donc, il est très important d'utiliser et de jouir et de profiter de cette éducation, de ce stage de spiritualité qui nous est proposé lors de ces saisons spirituelles, émotionnelles, comme je disais tout à l'heure, où est-ce qu'on ressent cette émotion intense, de nostalgique, de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'amour de son prophète, de l'amour de sa religion, et ressentir l'intensité de tout cela, jusqu'à même avoir les larmes qui tombent dans nos yeux quand je vois moi mes pèlerins arriver à la Kaaba et regarder la majesté de cette et la beauté de cet édifice qui est la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comment ils savent que c'est à cet endroit-là où leur prière sera enfin exaucée. Ils le font, bien entendu, tout cela dans le respect des règles chronologiques de l'organisation structurée qui permet, et bien entendu, aux croyants de faire les choses comme le prophète nous l'a enseigné quand il dira « Khudu anni manasikakum » « Prenez de moi la manière comment vous allez entreprendre tous vos manasik ». Alors qu'est-ce que c'est que le mot manasik ? Manasik, c'est le pluriel de mansak. Le mansak, c'est toutes les adorations associées au rituel du pèlerinage. On dit les manasik, c'est tout ce que, par exemple, le fait de tourner autour de la Kaaba, c'est un mansak. Le Safa ou le Marwa, entre le Safa et le Marwa, le fameux parcours, est un mansak. Le fait d'aller à Minan avec les moutons et préparer les animaux pour l'abattage deux jours après le jour de l'Aïd, c'est un mansak. Monter à Arafat est un mansak. Rester la journée à Arafat et adorer Allah et implorer Allah Azzawajal toute la journée de Arafat est un mansak. Le soir, quitter Arafat pour aller à Muzdalifa est un mansak. Y dormir là-bas, rester, prier le Maghreb al-Isha jusqu'au lendemain, la veille de l'Aïd, eh bien, est un mansak. Le jour de l'Aïd, le matin, je me réveille, je prie le Fajr et je vais au Jamarat, est un mansak. Je jette les 7 cailloux, est un mansak. Je quitte les Jamarat, je me coupe les cheveux, est un mansak. J'enlève mes habits de sacralisation ou au contraire, je décide de descendre à la Mecque pour accomplir le tawaf al-Ifada, le tawaf du pèlerinage, le tawaf obligatoire, le tawaf pilier du pèlerinage et le Safa et le Marwa qui va avec. Eh bien, est en soi, bien entendu, un des piliers et une des plus importantes manasik du Hajj. Et le croyant, lui aussi, à moindre mesure, il va réaliser ce nousouk par l'abattage et le sacrifice du mouton. Bien entendu, comme je l'ai dit hier à la mosquée de Paris, puisque hier j'ai eu la chance et le privilège de faire la khutba là-bas et de rappeler au nom même de la grande mosquée de Paris que on invitait tous les musulmans de France à respecter les règles sanitaires parce que tout simplement c'est une question de sécurité sanitaire, de sécurité d'hygiène et de santé, que tout simplement, et puis d'image de l'image de l'islam et l'image que l'on va donner des musulmans quand on voit des moutons qui sont jetés vivants dans des coffres ou qu'on va égorger dans des garages, etc., de manière anarchique. Cela, bien entendu, ne contribue pas à donner une belle image de notre religion.
C'est l'islam au présent jusqu'à 11h. Je rappelle que si vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali Mamoun, eh bien vous êtes les bienvenus au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beur FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, nous parlons de cette saison, peut-être une des plus importantes de l'année avec l'imam Abdelali Mamoun, la saison de Dhul Hijjah. Imam Abdelali, étymologiquement, ça veut dire quoi, Dhul Hijjah ?
Zou, le mot Zou, par exemple, quand on dit Zou Mal, c'est celui qui est propriétaire de.
Oui.
Par exemple, Zou Mal, par exemple, on dit une scène Zou Mal, ou Zou Jah, quelqu'un qui a de la notoriété, on dit Andou Hada Zou Jahin. Donc le Zou, c'est ce qu'on appelle un des six noms irréguliers. Voilà, ce sont ce qu'on appelle Asma Sitta. Zou. Zou, il y a Akhou, Abou, Hamou, c'est dans la grammaire arabe, ça. Je te fais une petite leçon de grammaire. Il y a ce qu'on appelle les six noms irréguliers qui se conjuguent différemment que les autres, donc, y compris Zou. Donc Zou veut dire celui qui a, d'accord. Al-Hijja, c'est-à-dire la particularité de réaliser ce voyage vers quelque chose de glorieux.
Puisque le mot Hajj, celui qui a le Hajj, en fait.
Celui qui a le Hajj, c'est-à-dire celui qui a le privilège d'être vécu comme étant un moment où est-ce qu'on va se diriger, s'orienter vers quelque chose de glorieux et d'exalté. Puisque la définition du mot Hajj, c'est en arabe al-qasdu ila mu'azzam. C'est le fait d'aller et de s'orienter vers quelque chose de glorieux et d'exalté. En l'occurrence, la Kaaba, qui est la demeure de Dieu, pour y, bien entendu, vénérer Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu notre Créateur. Donc, c'est le mois, effectivement, du pèlerinage, tu as tout à fait raison. Et c'est pour
c'est pour savoir pourquoi étymologiquement on l'appelait comme ça, en fait.
Alors, c'est un nom ancestral, c'est même pas le prophète qui l'a appelé comme ça. C'est les Arabes qui l'ont appelé comme ça. Les mois lunaires existaient bien avant l'avènement de l'islam, avant l'avènement du prophète. Je dirais même que le calendrier lunaire, le prophète n'y est pratiquement pour rien, à part le fait d'avoir établi les pendules à l'heure. Il a rétabli l'horloge comme elle était avant, puisque les Arabes pratiquaient le nasi. C'est quoi le nasi ? C'est le fait d'inverser des mois. Par exemple, ils décidaient pour qu'un mois sacré ne le soit pas, pour pouvoir déclarer la guerre à des ennemis, ils décidaient que, par exemple, Muharram n'était pas Muharram, et que c'était Safar, et que le mois suivant, Safar devenait Muharram.
Donc il a remis dans l'ordre, en fait.
Il a remis, il le dit lors du voyage d'adieu, lors du sermon du pèlerinage d'adieu sur le mont Arafat. Inna zamana qad istadara ka hay'atihi. Hein, le temps a tourné et s'est remis comme il l'a été dès le début de la création des cieux et de la terre. Donc il dit ensuite que les douze mois ont bien quatre mois sacrés, Et il va relater ces quatre mois sacrés que sont Rajab, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijja et Muharram.
Alors là, on est dans le mois de Dhul-Qa'dah.
Et Dhul-Qa'dah, je rappelle qu'il est aussi un mois du pèlerinage et un mois sacré.
Et qui veut dire quoi, donc, là, étymologiquement?
Dhul-Qa'dah, alors là, il faut peut-être que je revoie mes copies après.
La semaine prochaine.
J'ai pas eu la. Mais tout à l'heure, juste après la pause, je te dirais. Mais voilà, donc, ce sont des mois sacrés.
Et pourquoi vous dites que c'est un mois du pèlerinage?
Parce que. Quand quelqu'un arrive à la Mecque pendant le mois de Dhul-Qa'dah, avant le début des rites du pèlerinage, il n'est pas obligé de refaire tous les rites qu'il a commencé à faire en arrivant, parce que quand tu arrives, tu as déjà des rites à faire. Mmh. Il y en a qui arrivent à l'avance, pendant le mois de Dhul-Qa'dah.
Et donc, c'est valide.
C'est valide parce qu'il est déjà dans les mois du Hajj, sachant que même celui d'avant, le mois de Shawwal, c'est-à-dire le mois qui suit le mois du Ramadan, est déjà un mois du Hajj. Donc, les mois du Hajj, il y en a trois. Il y a Shawwal, Dhul-Qa'dah et Dhul-Hijja. Mais Shawwal n'est pas un mois sacré. C'est un mois du Hajj, mais pas sacré. Alors que, ce qu'on appelle Muharram, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijja et Muharram sont eux trois mois sacrés.
Consécutifs en plus.
Et donc Muharram est un mois sacré, mais pas un mois du pèlerinage. Alors que les deux mois d'avant, c'est eux qui réunissent à la fois le statut de pèlerinage et sacré. C'est-à-dire Dhul-Qa'dah et Dhul-Hijja sont à la fois Ashur al-Hurum ou Ashur al-Hajj. Ce sont des mois du pèlerinage et des mois sacrés.
Pourquoi? Parce qu'on considérait qu'il fallait trois mois pour y aller. Enfin, c'était.
Voilà, c'était un mois pour y aller, pour y parvenir en arrivant de toutes les contrées arabes, puisque tu sais, les Banu Rabi'a du côté de l'est de l'Arabie, des pays du Golfe, ce qu'on appelle ceux qui étaient frontaliers avec le Golfe du Persique et toute la région proche de l'Iran persane à l'époque, eh bien, mettaient un mois pour arriver jusqu'à la Mecque. Et ils venaient, il y avait des caravanes qui venaient de partout. Et ça, je parle de avant l'avènement de l'islam, avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il venait, restait un mois sur place, et un mois, il mettait pour retourner. Et pourquoi on disait que c'était des mois sacrés? Tout simplement parce qu'il y avait une trêve. Les tribus dans lesquelles ces caravanes traversaient les territoires, c'est un peu comme, vous savez, à l'époque des cow-boys, vous avez des territoires des Cheyennes, des territoires des Apaches, des territoires des Sioux. Eh bien, quand tu traversais, il fallait que tu subisses un petit peu le courroux ou peut-être l'indulgence de la tribu qui soit est accueillie avec hospitalité ou est accueillie avec des flèches et la mort, etc. Donc, c'était c'est-à-dire à la chance. Alors que pendant les mois de Muharram, quand les mois sacrés, les caravanes pouvaient traverser tout le territoire et toutes les tribus et les territoires réservés aux tribus, ce qu'on appelle massacre.
Il n'y avait pas de guerre.
Personne ne pouvait toucher aux caravanes des pèlerins. Ça, avant même l'avènement de l'islam. À la seule différence, ce que le prophète est venu corriger, c'est pas le fait de glorifier la Kaaba. Au contraire, il a confirmé, il a validé, il a continué à dire aux Arabes et même au-delà des tribus arabes, les pays d'Ajam qui sont d'Europe, d'Asie, etc., du monde entier, de venir eux aussi accomplir le pèlerinage à la Mecque. La seule différence qu'il a fait, c'est qu'il a demandé aux gens de venir vénérer un seul Dieu. C'est-à-dire que puisque la Kaaba, avant l'avènement d'islam, les gens faisaient la circumambulation, le fameux tawaf autour de la Kaaba, mais ils vénéraient des divinités. Hubal, Lat, Wal-Uzza, Wamanat, etc. étaient des divinités. Il y en avait 360. Pour chaque jour de l'année, une idole était vénérée. Et donc, on vénérait ces idoles, on les adorait, on les implorait, on leur demandait d'exaucer nos prières, etc. Ce qui est bien entendu le shirk que Allah Azza wa Jal a condamné et a demandé de corriger et de rectifier. À part cela, non, l'islam n'est pas là pour changer les rituels à proprement dit. Il a laissé les choses telles qu'elles sont. Et il a dit aux croyants devenus du monde entier, continuez à faire ce que vous faisiez avant, mais au lieu d'adorer des idoles, il faut m'adorer moi seul. Wahdahu la sharika la. Labbaik Allahumma labbaik. Me voici, ô mon Seigneur, me voici. Labbaik la sharika la kalabbaik. Me voici, tu n'as pas d'associé. Me voici. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk. Les bienfaits. Inna alhamda, la louange, les bienfaits et le royaume sont à toi seul. La sharika lak, tu n'as pas d'associé. Donc c'est très important, cette formule que répète ensemble tous ces pèlerins, dans l'unité et dans l'unicité, eh bien, ils réalisent finalement un des principes fondamentaux qui est qui a été écrit bien plus tard en France en 1789 dans la Déclaration de l'homme et du citoyen, Déclaration universelle, où on dit tous les hommes et les femmes restent unis, du moins égaux dans les droits et leurs devoirs. Eh bien, c'est exactement ce que veut mettre en valeur Dieu quand il dit à tout le monde: habillez-vous de tous de la même manière. Vous devez porter tous le même habit, décousu en plus. Vraiment, qu'est-ce que ça veut dire décousu? Ça veut dire vous devez vraiment ne pas chercher à porter des vêtements beaux, embellis, avec une couture délicate, etc. Vraiment, dans deux khirqas, c'est-à-dire dans deux chiffons que vous portez sur vous, et montrer votre humilité, votre renoncement au bien de ce bas monde, et surtout ne pas mettre en avant votre statut notable ou dans lequel vous prétendez être meilleur ou supérieur aux autres. Vous êtes tous égaux devant Dieu. Hein, ce sont tes actes qui valent, pas tes origines, pas ton statut social, ni ton argent, ni ta notoriété, etc. Seul ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce que tu as accompli dans ta vie sera jugé par Allah subhanahu wa ta'ala, et Dieu, grâce à cela, nous rappelle que ça sera la même chose le jour de la résurrection. Quand quelqu'un va au pèlerinage, il est en train finalement de revivre, au théâtre, on fait des séances de
répétition.
De répétition. C'est une répétition du jour du jugement dernier. Exactement. On répète avant que ça arrive, le jour du jugement dernier, où que tout le monde, hein, on le voit à la Mecque, à Arafat, tous les gens sont là, debout, à lever les mains au ciel. T'as l'impression qu'on est déjà au jugement dernier, c'est impressionnant. Et on sait que Dieu la descend au ciel de ce bas monde, comme le jour du jugement dernier, il descendra. Et il dira: bon, maintenant, voilà, c'est l'heure du jugement. Et là, tout le monde pleure, tout le monde est en panique, tout le monde attend qu'il soit jugé, qu'il espère être sauvé du châtiment et du courroux de Dieu et pouvoir obtenir sa satisfaction et le paradis. Voilà, on est en train de répéter cela, tous les ans on le répète, pour rappeler ensemble à toute l'humanité que c'est ce jour-là qu'il faut craindre. C'est le tout dernier verset révélé au prophète. Le tout dernier, c'est craignez le jour où vous allez revenir vers votre Créateur. Et que chaque âme sera rétribuée selon chaque âme ce que leur a accompli. Sans que quiconque ne subisse une injustice ou quelconque injustice. Voilà le message que le prophète veut nous faire passer et que Dieu veut nous faire passer par cette répétition de ces rituels que nous commémorons tous les ans.
01 53 48 3000. Je rappelle que l'islam au présent, c'est jusqu'à 11h et que vous pouvez poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun en direct au 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, nous parlons de la saison de Doulidja avec l'imam Abdelali Mamoun. Alors, qu'est-ce qu'il est recommandé d'accomplir pendant tout ce mois de Doulidja et pendant les 10 premiers jours du mois, imam Abdelali?
Alors, le 10 premiers jours du mois de Doulidja, il y a un hadith authentique apporté par Abu Huraira, donc le compagnon du prophète Abu Huraira, qui nous dit, selon bien sûr le recueil de Bukhari et Muslim, il n'y a pas d'action plus appréciée, plus aimée par Dieu que l'action, bien sûr, vertueuse qui est accomplie par le croyant lors de ses 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Il dit en arabe: « Ma min ayyamin al-amal al-salihu ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam. » Alors il y a un compagnon qui s'est levé et qui a dit: « Ah bon, toutes les actions, il n'y a pas de moment plus apprécié, ou les actions c'est les plus appréciées que ces 10 premiers jours du mois de l'Hijjah, y compris le jihad, le compagnon, y compris celui qui va faire la guerre et sacrifier sa vie ou risquer sa vie pour la cause. Et là le prophète lui dit: oui, même pour celui qui va faire le jihad, il n'est pas mieux que celui qui va faire le jihad. Et là le prophète, il va quand même mettre une exception à la règle. Il dit: sauf un homme qui va partir faire le jihad, lutter pour la cause, bien entendu, juste, une cause juste, hein, et qui, avec son argent, avec ses biens, avec sa vie, et par contre, il laisse tout là-bas sur place. Il laisse sa vie et son argent, et donc il meurt martyr. Celui-là, effectivement, est meilleur que celui qui a fait les bonnes actions. Donc finalement, ces héros qu'on peut appeler des héros de la patrie, qui meurent pour la cause, qui ont protégé la veuve et l'orphelin, qui ont risqué leur vie jusqu'à mourir, ont donné leur argent jusqu'à même plus en avoir, et qui meurent, et à qui on a fait, on a carrément, par exemple, à Alger, construit Maqam Shahid pour eux, pour leur rendre hommage. Eh bien, il n'y a qu'eux qui sont meilleurs, finalement, ces hommes qui sont morts, par exemple, pour la cause, pour défendre la veuve et l'orphelin, qui sont mieux que ceux qui font des bonnes actions. Donc, on est à ce niveau-là, Philippe, on est à ce niveau-là d'appréciation. C'est donc des moments d'une intensité extraordinaire, où la récompense est décuplée de manière incommensurable et incalculable. Donc, il est très important, et moi, j'exhorte tous mes frères et mes sœurs coreligionnaires de confession musulmane de programmer cette période-là pour y accomplir un maximum de bonnes actions, par exemple, de payer leur zakat, de faire des sadaqat, de faire du dhikrullah, des évocations, de, par exemple, de programmer la récitation du Coran intégralement. De jeûner aussi, on peut jeûner les 9 premiers jours, bien entendu le 10e jour, le jour de l'Aïd, c'est interdit de jeûner, mais on peut jeûner les 9
Alors,
premiers jours.
De plus en plus de gens semblent jeûner hein, pendant ces 9 oui, premiers jours de Dhul Hijjah. Quel est le statut de ces jours de jeûne?
Ah ben, ils sont, il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleur jeûne que le fait de
c'est
jeûner.
Quoi, c'est quoi? Ils sont vivement recommandés? Ils sont...
Alors, le prophète, il a jeûné beaucoup dans l'année. Mais spécifiquement, le prophète va garder un terme générique. Il va dire l'amal salih, les actions vertueuses, les bonnes actions. Hein, le fait d'accomplir de nobles œuvres pendant cette période-là, et y compris le jeûne en fait partie. Mais le prophète ne va pas s'arrêter, il ne va pas se focaliser sur le jeûne. Il va dire faites un maximum d'actions. Si d'autres personnes considèrent que bon, bah, ils sont pas habilités à jeûner, mais ils peuvent par exemple lire le Coran, faire des sadaqat, prier la nuit, aider les pauvres, intégrer une association pour aider les nécessiteux, je sais pas moi, rendre visite à des malades à l'hôpital, etc., etc. Tout ce que vous pouvez imaginer d'actes vertueux, eh bien, il est bien de le faire. Enfin, réconcilier des gens. Organiser des séances de réconciliation entre un frère et sa sœur, entre un mari et sa femme, entre des parents et leurs enfants, etc.
Mais par exemple, si on prend le jeûne du jour d'Arafat, est-ce que la valeur des autres jours jeûnés est identique à celle du jour d'Arafat ou celui d'Arafat c'est plus important?
Ah oui, bien sûr. Le jour d'Arafat est le jour le plus noble de l'année. Il a encore un statut au-dessus. Alors déjà, le mois de l'Hijja est le meilleur mois de l'année. Les 10 premiers jours de ce mois-là sont les meilleurs jours du mois de l'Hijjah. Et parmi les 10, le jour le plus noble, c'est le jour de Arafat. Donc Arafat, c'est vraiment le top du top. Hein, et je rappelle que c'est ce jour-là où Dieu descend dans ce bas monde. Et il dit à ses serviteurs, les anges, que me veulent ces gens? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils jeûnent et ils sont là à Arafat où ils feront des actes d'adoration. Et là, bien entendu, il leur dira à la fin, sachez mes anges que je leur ai tous pardonné. Ils peuvent rentrer chez eux tranquilles. Réconfortés, car je leur ai tous pardonné. Voilà, c'est extraordinaire, c'est un moment d'une intensité extraordinaire qu'il faut exalter, qu'il faut glorifier, qu'il faut mettre en valeur, et surtout pas ne pas laisser passer, parce que lui, quand il partira, il ne nous regrettera pas, mais nous le regretterons énormément. Nous regretterons son départ et sa disparition et le gâchis de ne pas en avoir profité. Donc voilà.
Alors, il y a beaucoup de choses qu'on entend et qu'on lit sur ces 10 premiers jours, Imam Abdelali, notamment ne pas se couper les cheveux, les ongles.
Alors oui, dans le souci d'essayer d'imiter, de se mettre dans la peau des pèlerins, puisque les pèlerins, il faut savoir que quand ils sont en état de sacralisation, eh bien, ils n'ont pas le droit de ni se couper les ongles, ni se couper les cheveux, ni rien du tout, parce que ils attendent ce 10e jour pour immoler leur bête. Eh bien, le prophète a demandé aux croyants dans le monde, qui restent eux chez eux, qui ne sont pas venus à la Mecque, d'essayer d'être l'état d'esprit du pèlerin qui lui s'est interdit parce qu'il est en état de sacralisation en s'abstinant de couper les ongles ou de se couper les cheveux. Par contre, il n'est pas interdit pour celui qui n'est pas au pèlerinage de consommer des relations intimes avec sa femme par exemple, alors que le pèlerin lui n'a pas le droit. Il a strictement pas le droit parce que là franchement un pèlerin qui va à la Mecque et qui a des relations en période de sacralisation, il a tout flingué. C'est-à-dire non seulement et il a rendu caduque son pèlerinage. Et il a une expiation l'équivalent d'un chameau. Hein, il doit payer un chameau, pas égorger un mouton, c'est un chameau là, ce qu'on appelle badana. ou un bœuf, donc une grosse bête, hein, qui va donner en offrande aux pauvres. Et en plus, il sera obligé de rattraper cette année-là, ce pèlerinage. Elle lui sera redevable les années suivantes. Même si c'est un pèlerinage surérogatoire. Moi, j'ai déjà été une première fois en 89, hein, il y a longtemps, hein, mon pèlerinage, mon vrai pèlerinage à moi, le tout premier, hein, le Hajj Fard, Farida, eh bien, c'était en 89, moi.
Ça veut dire quoi, Farida ?
Obligatoire, c'est celui qui est le premier. Quand tu vas à la Mecque, une première fois, c'est celui-là que tu fais pour toi-même en tant que pèlerinage obligatoire. Les autres que tu vas faire après, c'est des pèlerinages surérogatoires. Imagine, lors de ces pèlerinages surérogatoires, je commets la faute d'avoir des relations en état de sacralisation avant le jour de l'Aïd et avant avoir fait le tawaf, l'ifard, ce qu'on appelle d'être en état de désacralisation, eh bien, je suis assujetti à l'obligation de refaire et de rattraper et de qada, comme on dit en arabe, qada l'hajj hada. Hein, voilà. En plus que j'ai rendu caduc ce hajj-là qui devient caduc, nul, et je dois terminer, hein, j'ai pas le droit de dire c'est caduc, je rentre chez moi. Non, c'est caduc et tu dois quand même le terminer. Et en plus payer une badana, c'est-à-dire payer la grande expiation, qui est l'équivalent d'un chameau ou d'un bovin. Et enfin, tu dois l'obligation de le refaire dans les années qui futures. Voilà, donc c'est très important et très grave. Par contre, couper les cheveux ou par exemple se couper les cheveux.
Oui.
Comme le prophète l'a dit, celui qui a l'obligation de se couper les cheveux, comme le dit un compagnon qui est venu, et le Coran est venu le protéger, cet homme qui avait des problèmes de cheveux, il avait des poux, on ne sait pas. En tout cas, Dieu a cité le mot adha. فَمَنْ كَانَ بِهِ أَذًا مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Il est obligé de couper ses cheveux parce qu'il doit raser ses cheveux à cause de ses problèmes de cuir chevelu. Eh bien, lui va payer une expiation en sadaqa, en jeûne ou en nusuk. Nusuk, c'est-à-dire un mouton.
Bon, on revient dans un instant. On revient dans un instant. On va marquer une courte pause et on terminera l'émission dans un instant.
L'islam au présent revient dans un instant.
Je voudrais être un fauteuil dans un salon de coiffure pour dames.
Sauvage Productions présente Gnawa Diffusion en concert le 30 juin au Cabaret Sauvage. Gnawa Diffusion, les rebelles de la scène algérienne, font leur retour pour le festival d'été du Cabaret Sauvage, accompagné des sonorités électriques d'Alright Mela et leur invité Jawad. Gnawa Diffusion en concert vendredi 30 juin à 19h au Cabaret Sauvage. Infos et réservations sur cabaretsauvage.com. Avec Beurre FM.
À la recherche de l'agneau parfait pour l'Aïd, ne cherchez plus. La boucherie Étoile d'Afrique est là pour vous servir. Chez la boucherie Étoile d'Afrique, l'agneau entier de l'Aïd est à 260€ et la découpe est gratuite.
L'année dernière, j'ai acheté mon agneau de l'Aïd à la boucherie Étoile d'Afrique et c'était délicieux. La viande était tellement tendre, un régal pour toute la famille.
Le prix et la qualité sont vraiment au rendez-vous. La boucherie Étoile d'Afrique, c'est définitivement mon choix.
Alors réservez vite votre agneau de l'Aïd à la boucherie Étoile d'Afrique, 51-53 rue de Paris à Montreuil, face au marché Croix de Chaveau. 01-43-63-12-52.
Beurre FM, bien plus qu'une radio.
Dépêchez-vous, c'est un hyper bon plan frais. Jusqu'au 20 juin chez Cora, la barquette de douche Chipolata est à seulement 5,50€. Barquette de 660 grammes élaborée en France. Voir magasin participant et conditions sur Cora.fr. À la semaine prochaine pour un nouvel hyper bon plan frais. Cora, l'hyper proximité. Pour votre santé, évitez de grignoter.
C'est pas sérieux, mais vous avez très envie d'un Chirachi. Bon ben, prenez-en deux. Découvrez nos offres, un plat acheté, un plat offert sur Deliveroo. C'est encore meilleur quand c'est en promo. Commandez sur l'app. Offre disponible selon les conditions de chaque restaurant participant sur Deliveroo.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Beurre FM, bien plus qu'une radio. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon.
Voilà, l'imam Abdelali Mamoun, on parle de cette saison de Dhouhijja. On a parlé tout à l'heure des mérites du jour d'Arafat, qui est le jour le meilleur de l'année, tout en sachant que la nuit la meilleure de l'année, imam Abdelali...
C'est la nuit du destin, c'est sûr. Laylatul Qadri khayrun min alf shahr est la meilleure nuit de l'année, mais Arafat est la meilleure journée de l'année. Là, il faut bien faire le distinguo entre meilleure nuit, la nuit, c'est-à-dire après le coucher du soleil, c'est la nuit du destin ou de la prédestinée qui est pendant le mois du Ramadan, le 27e jour du Ramadan, qui n'a rien à voir avec ce 9e jour du mois de Dhul-Hijja, qui est lui la meilleure journée de l'année, la meilleure journée jour en jour, contrairement à la nuit.
Tout en sachant que ceux qui sont donc au pèlerinage ne jeûnent pas le jour d'Arafat.
Non, ils ne jeûnent pas. Eux, ils ont d'autres choses à faire. Ils ont d'autres chats à fouetter. Ils ont d'autres choses à faire et plein d'autres choses à faire. Ils ne peuvent pas jeûner. Et moi, je déconseille bien entendu les gens à la Mecque d'accomplir le jeûne parce qu'il y a une chaleur tellement intense. Il y a tellement de choses à faire, la bousculade, la foule, etc. Si vraiment vous voulez mettre votre santé en péril, c'est de jeûner là-bas. Il faut pas jeûner à la Mecque. Il fait très chaud. Vous avez besoin de vous abreuver à chaque instant. Il fait très, très chaud. Il faut toujours boire, 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 boire. Il faut boire. Vous suez à mort. Pas comme dans le Kawai de comment il s'appelle?
Je ne sais pas.
Bah, non, l'humoriste, là. Danny Boone. Voilà.
Ah, Danny Boone.
Alors, Danny Boone qui raconte le Kawai, tu sais, le Kawai.
Ah oui, ah, le Kawai.
Il dit, tu suis à mort.
Bon, Imam Abdelali.
Bah, à la base, il n'y a pas besoin de Kawai pour suivre à mort.
Imam Abdelali, on vous retrouvera la semaine prochaine. Inchab. Donnez votre numéro de téléphone pour ceux qui veulent vous appeler.
Ah oui, 06 29 25 35 00. Je répète, 06 29 25 35 00. Pour aussi, si vous souhaitez, Inch'Allah, un jour partir à la Mecque, vous m'appelez, faire le Hajj par délégation, tout ça, et le Umrah par délégation, vous pouvez m'appeler. Marhaba bikoum, 06 29 25 35 00. C'est tout dit. Et salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.